Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Voilà, aujourd'hui, deuxième dimanche après la Pentecôte, nous fêtons tous les saints du Mont Athos. Ils sont évidemment innombrables. J'ai mis l'icône de Saint Silouane ici pour rassembler, je dirais, sous son appellation, sous son nom, tous les saints du Mont Athos. Parmi les saints du Mont Athos, je voudrais juste signaler quelques-uns qui sont assez récents et qui sont des maîtres spirituels de très très haute portée, de très haute volée. J'ai cité Saint Silouane, mais il y a aussi Saint Sophronie, Saint Païsios, Joseph, Lésicaste et encore d'autres. Pour cela, nous avons convenu avec la bibliothécaire d'approvisionner les livres qui les concernent. Alors, on en a déjà certains, d'autres vont venir. Pourquoi ? Parce que c'est une nourriture essentielle, importante, de tout premier ordre, voilà, que de lire la vie des saints. Dans la vie des saints, il y a vraiment la parole de Dieu qui passe. Et je voudrais citer ce petit mot, enfin partiellement, du père Emilianos, qui était le père spirituel de Simonos Petra et en particulier du père Placide autrefois. Le père Emilianos a écrit: il ne peut y avoir de vie spirituelle sans la lecture d'ouvrages spirituels. Et parenthèse, les vies des saints, c'est particulièrement des ouvrages spirituels. Un livre de spiritualité, c'est la parole de Dieu. Comme une graine, elle tombe dans notre âme et germe. La parole de Dieu cache la puissance de Dieu lui-même, c'est-à-dire la parole du Christ. Voilà. Je ne dirai pas plus sur les saints du Mont Athos, mais voilà. Sachez que ce ne sont pas les seuls dont nous ayons des témoignages récents, mais voilà. Parmi ceux que j'ai cités, il y a aussi. Il y a aussi Ephrem de Katuniaka, Katunakia, voilà. Voilà, on va approvisionner tous ces livres et à la rentrée, vous pourrez vous nourrir, je dis pas seulement vous délecter, mais vous nourrir en profondeur de cette présence du Christ qu'ils apportent à chaque page. Voilà, l'évangile de ce dimanche est consacré à l'appel des disciples, des premiers disciples. Tous les évangiles, les quatre évangiles, au début, montrent l'appel des disciples par le Seigneur, de différentes manières, et on voit l'importance que cela. Le Seigneur est venu dans le monde pour, justement, enseigner le monde, pour donner sa parole à toute l'humanité par l'intermédiaire d'abord de certains qui seront plus proches et puis voilà, ça s'étendra de place en place tout au long de l'histoire d'ailleurs. Alors l'appel de ses disciples appelle à une certaine réflexion. Le Seigneur nous appelle tous. Tous nous sommes appelés à être disciples, mais peut-être tous de manière différente, à la mesure de notre foi, à la mesure de l'ouverture de notre cœur, à la mesure de notre capacité. Si on prend la Bible, les textes les plus anciens, on voit que le Seigneur a vivement réveillé, secoué Abraham de son sommeil, en lui disant, voilà, quitte ta terre, quitte tes parents, quitte le monde dans lequel tu vis et va où je te conduirai. Laisse-toi conduire. Hein. C'est moi qui vais te conduire. Voilà. Et Abraham a obéi, il s'est mis en route et il nous laisse l'image d'une foi inconditionnelle, d'une foi parfaite, pourrait-on dire. Avec les apôtres, c'est un peu différent. ces quatre-là, ces deux fois deux frères, donc on a Pierre et André, son frère, et Jacques et Jean, son frère. Pierre et André étaient d'un certain âge, certainement, et ils étaient pêcheurs, ils étaient établis pêcheurs. Jacques et Jean étaient sans doute plus jeunes, et ils travaillaient avec leur père, Zébédée. Ce qui est intéressant, c'est de mettre en comparaison cette lecture qu'on vient d'avoir avec celle du début de l'évangile de Jean. Pourquoi ? Parce qu'on voit que ces quatre-là, ils avaient déjà rencontré Jésus au Jourdain au moment de son baptême. Au moment de son baptême, et ils avaient été présentés, si je puis dire, par Jean-Baptiste, qui avait désigné Jésus en disant « Voici l'agneau de Dieu, celui qui prend le péché du monde. » Et cette phrase les avait interrogés, et deux d'entre eux, André et Jean, le jour même, s'étaient mis à la suite de Jésus pour essayer d'en savoir un peu plus. Et ils avaient finalement passé la soirée et sans doute une partie de la nuit à écouter Jésus. Et le lendemain, ils avaient présenté Jésus à leurs frères respectifs et aussi aux autres qui étaient dans ce petit groupe des disciples qui, à l'époque de Jean-Baptiste, et qui vont quitter Jean-Baptiste justement pour se mettre à la suite de Jésus. Et parmi ceux-ci, il y avait aussi Nathanaël. Et Nathanaël, il a résumé en une petite phrase la situation. Il a dit à Jésus, « Tu es le Fils de Dieu. » Et puis ils sont partis, ils sont remontés. Ça se passait à l'embouchure du Jourdain, tout à fait dans le sud, peu pas loin de l'endroit où le Jourdain va se jeter dans la mer morte. Et de là, ils étaient remontés vers la Galilée et ils avaient cheminé tous ensemble, sans doute 3 ou 4 jours, à faire toute cette route. Donc ils avaient déjà eu une certaine intimité avec Jésus. Et ils étaient arrivés à Cana où il y avait des noces. Et ils avaient participé à ces noces et ils avaient été témoins du miracle des noces de Cana, du miracle de cette eau changée en vin. Puis, ils étaient séparés. Jésus était parti au désert, 40 jours. Les futurs disciples avaient repris leur travail au bord du lac de Galilée, et leur travail de pêcheur. Les premières impressions fortes, certainement, avaient été digérées. L'enthousiasme avait pu peut-être retomber un peu. Mais pourtant, la mémoire de ce qui s'était passé, de cette rencontre exceptionnelle avec Jésus, était toujours présente. Mais voilà, disons, Jésus leur avait donné un peu de temps, le temps de réfléchir. Et puis, voilà qu'aujourd'hui, dans l'épisode qu'on lit, Jésus les croise à nouveau. Et puis, il leur dit, « Suivez-moi. » Pas de discours. Les discours, on les a déjà eus avant. « Suivez-moi. » Et aussitôt, pour les deux premiers frères, Pierre et André, comme pour les deux suivants, Jacques et Jean, l'évangéliste emploie cet adverbe. « Aussitôt. » Voilà, il n'y a pas d'hésitation, c'est immédiat. Aussitôt, il quitte tout pour suivre Jésus. De même, si on compare à notre expérience, nos expériences personnelles, il arrive que, voilà, nous avons entendu certainement à un moment ou à un autre, nous avons entendu l'appel, nous avons entendu clairement, Jésus nous se manifestait, nous sollicitait, et puis nous sommes mis en marche pour le suivre dans un certain enthousiasme. Mais voilà, le temps a pu passer peut-être, et comme la graine du semeur, faute de peut-être de profondeur de terre, dit-on dans la parabole du semeur, ou parce que les soucis du monde, voilà, comme les épines du semeur, ont empêché la graine d'arriver à la plante, plutôt, d'arriver à sa maturité. Alors, voilà, peut-être nous nous sommes un peu refroidis. Mais le Seigneur repasse. Et il dit, maintenant, c'est le moment. Maintenant, quitte tout pour moi. Il est temps. Quitte tout, ça veut... Voilà, dans la mesure où nous avons des vies de famille, etc., il ne s'agit pas de partir au monastère, mais voilà, de donner notre cœur, d'ouvrir notre cœur au Seigneur. Et la grâce est là. Nos cœurs peuvent s'embraser à tout moment, à l'occasion, je ne sais pas, d'une communion, d'une rencontre, d'une retraite, d'un moment de prière. Et puis de nouveau, voilà, nous nous endormons, nous nous rouillons. Alors n'attendons pas que tout nous soit enlevé, que vienne la vieillesse, la maladie, la mort, les dures circonstances de la vie, pour nous rappeler que, en dehors de Dieu, il ne reste finalement rien. Réfléchissons bien. Le Seigneur nous appelle. Viens à moi. Aide-moi. Nourris-toi de moi. Viens un jour où il ne passera plus. Et peut-être ce sera trop tard, et à ce moment-là, nous pourrons crier comme on lit dans l'Évangile, « Seigneur, Seigneur !» devant une porte fermée, pour entendre une réponse dramatique, « Je ne vous connais pas. » Alors, encore une fois, ne tergiversons pas et livrons-nous totalement, entièrement, à l'amour de celui qui est venu dans le monde pour notre salut. À lui soit la gloire, pour les siècles des siècles. Amen.